Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a des jours pendant l'année où il n'y a pas de saint que l'Église honore spécialement. Par exemple, aujourd'hui. Alors, ces jours, on les appelle des férilles. Voilà. Et on peut choisir pendant ces jours des messes votive ou les messes de certains saints. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, j'ai pris la messe de la très sainte Eucharistie, parce que ça rappelle que c'est le jeudi saint que Jésus a institué ce sacrement, la sainte messe, la sainte Eucharistie. Voilà, alors c'est pourquoi on peut prendre ce jour-là. Mais quelle doit être notre attitude à la Sainte Messe? Qu'est-ce que nous devons faire à la Sainte Messe? Eh bien, pour vous aider à savoir ce que vous devez faire, je vais vous rappeler un peu, brièvement, ce que c'est que la Sainte Messe. Vous savez tous que la Sainte Messe, c'est Jésus qui s'offre à nouveau en sacrifice sur l'autel, qui vient renouveler le sacrifice du calvaire, d'une manière bien sûr non sanglante, ça vous le savez. Voilà. Eh bien, le vendredi saint, lorsque Jésus a été cloué sur la croix et qu'il est mort, il a rendu à Dieu le Père le culte le plus parfait, c'est-à-dire qu'il a adoré Dieu le Père. Il l'a remercié, il lui a demandé pardon et il a prié pour nous tous. Voilà ce qu'il a fait Jésus au calvaire le vendredi saint, pour nous tous. Et ça, il le refait chaque jour sur nos autels. Et nous aussi, nous avons des devoirs envers Dieu. Nous devons l'adorer, le reconnaître, pour étant le Tout-Puissant, celui qui a tout fait. Reconnaître aussi que nous avons tout reçu de lui, que nous dépendons tout à fait de lui, nous avons été créés par lui. Nous recevons chaque jour notre pain, la nourriture dont nous avons besoin, du bon Dieu. Alors nous devons aussi le remercier. Et puis, comme nous commettons des péchés, nous devons lui demander pardon, parce que par le péché nous l'offensons. Et aussi le prier, lui demander des grâces pour devenir toujours meilleur, pour devenir des saints et des saintes. Voilà, ça nous n'arrivons pas sans la grâce du bon Dieu. Alors il faut le demander. Alors lorsqu'on assiste à la messe, eh bien, Jésus le fait pour nous. Mais alors, il ne faut pas se dire, bon, très bien, Jésus fait ça pour nous, alors nous on reste là comme des spectateurs. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous avez remarqué, qu'est-ce que dit le prêtre pendant la messe? Eh bien, il dit par exemple, Oremus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, prions. Il ne veut pas dire, je prie moi. Prions tous ensemble. Ça veut dire que vous, vous êtes unis au prêtre pour offrir, vous aussi, vous allez offrir à la messe Jésus à Dieu le Père comme sacrifice. Voilà. Vous êtes unis au prêtre, alors vous ne pouvez pas rester comme spectateur. Il dit dans certaines prières, recevez, ô très sainte Trinité, cette oblation que nous vous offrons. C'est le prêtre qui dit, mais ce n'est pas que le prêtre qui offre. C'est vous aussi qui offrez. C'est pour ça qu'il faut bien suivre dans vos missels. Vous avez toutes ces belles prières. Comme ça, vous êtes unis au prêtre. Et toutes les prières que le prêtre adresse au bon Dieu, vous, vous les adressez aussi au bon Dieu. Qu'est-ce que fait le prêtre à la messe? À la messe, le prêtre a reçu le pouvoir de faire venir Jésus sur l'autel. Voilà. Quand il prend la petite hostie blanche, qui n'est qu'un morceau de pain, et qu'il prononce les paroles de la consécration, à ce moment-là, ce n'est plus du pain, c'est Jésus qui est sur l'autel. Quand il prend le vin qui est dans le calice et qu'il prononce les paroles de la consécration, ce n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Alors le prêtre, il fait venir Jésus sur l'autel. Mais ensuite, vous, avec le prêtre, vous allez offrir cette victime, offrir Jésus, sous les apparences du pain et du vin, à Dieu le Père. Et vous ne savez pas ce que cela fait plaisir au bon Dieu, à Dieu le Père. Il y avait en Espagne un laboureur. Vous savez que les laboureurs, ce sont ceux qui tournent la terre pour pouvoir réensemencer. Et ça fait déjà très longtemps, il labourait à ce moment-là avec des bœufs. Il n'avait pas les tracteurs, il fallait tout faire avec des bœufs. Et ce laboureur s'appelait Isidore, Saint Isidore. Et lui avait bien compris cela. Alors tous les matins, le plus grand plaisir qu'il avait, c'était d'aller assister à la messe pour offrir à Dieu la victime immolée, notre Seigneur, pour offrir à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'adorer, pour le remercier de tous les bienfaits qu'il avait reçus, pour le remercier d'être un Dieu si bon, pour lui demander pardon aussi de ses péchés, et pour lui demander des grâces de devenir un saint. Alors il allait tous les matins, grande joie, offrir le saint sacrifice. Mais alors il n'allait pas rester là, dans le bas, assis, à regarder, à écouter. Non, non, il prenait son missel, il priait, il suivait les prières. Comme ça, il disait, je prie avec le prêtre. Toutes les prières que le prêtre dit, je les dis moi aussi. Comme ça, j'offre avec le prêtre cette belle victime à Dieu le Père, qui sera très content. Et en effet, Dieu le Père était si touché, si content de lui, qu'il l'aidait dans son travail. Alors sa femme venait au champ lui porter les 10 heures. Il portait un petit peu à manger pour 10 heures et puis l'après-midi. Et quand elle venait plusieurs fois, elle avait vu deux anges qui labouraient à côté de lui avec deux bœufs tout blancs. Mais elle n'avait jamais voulu dire ça à Isidore, à Saint Isidore, parce qu'elle s'est dit, si je lui dis ça, peut-être qu'il deviendra orgueilleux. Alors je ne lui dirai pas. Il y avait d'autres paysans, d'autres laboureurs qui travaillaient pour le même propriétaire. Il y avait un propriétaire qui avait beaucoup de terres, et il avait des ouvriers qui labouraient ses champs, qui travaillaient ses champs, et entre autres Saint Isidore. Et les autres, voyant que Saint Isidore commençait tous les matins plus tard que les autres, ils étaient jaloux. Quoi ? C'est un fainéant ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Mais ils savaient qu'il allait à la messe, mais ils étaient jaloux. Parce qu'ils disaient, oui, lui va à la messe, nous on va pas à la messe. Bon. Alors ils sont allés voir le grand propriétaire, puis lui ont dit, vous savez, hein, Isidore, il commence plus tard le travail que les autres. Si vous intervenez pas, si vous ne lui dites pas quelque chose, ben vous aurez de moins bonnes moissons. C'est vous qui perdrez. Alors le grand propriétaire, fâché, il va au champ, il va vers Isidore et commence à lui crier, comment, qu'est-ce que j'ai entendu de toi? Tu commences au travail après les autres, et je te paye pour ça. Et Saint Isidore, il ne s'est pas fâché, tout calmement il a répondu, si je vous fais du tort, eh bien, je vous promets de vous récompenser lors des moissons. Et vous saurez ceci. Bien sûr, je suis à votre service, mais je suis d'abord au service du roi des rois. Alors, le maître était très surpris d'entendre ces paroles. Il s'est calmé, et puis il est parti. Puis il s'est dit, je vais l'attraper cette fois-ci. Alors, le lendemain matin, il est venu plus tôt pour voir. Et en effet, il est arrivé, et Isidore n'était pas là. Alors, il s'est dit, cette fois-ci, je vais l'attraper. Alors, il est reparti chez lui, et il est revenu plus tard dans la matinée. Et quand il est arrivé, il a vu deux personnages habillés tout de blanc, avec deux bœufs tout blancs, qui travaillaient à côté de Saint Isidore. Alors il vient, et en s'approchant de Saint Isidore, les deux personnages en blanc et les deux bœufs blancs disparaissent. Il ne les voit plus. Il vient vers Isidore et dit, dites-moi voir, qui est-ce qui travaille avec vous là? Mais Saint Isidore ne les voyait pas, lui, les anges. Alors il ne savait pas quoi répondre, alors il fait un beau sourire. Et l'autre lui dit, mais dites-moi au nom du Seigneur, qui était avec vous là? Et Saint Isidore dit, il n'y a personne qui ne m'aidait. Je me confie au bon Dieu et c'est lui qui s'occupe de moi. Alors le grand maître a compris que le bon Dieu avait été tellement content de ce que Isidore allait tous les matins à la messe offrir le saint sacrifice, s'unir au prêtre pour offrir la divine victime, qu'il lui avait envoyé des anges pour aider son travail. Et en effet, les moissons étaient toujours très abondantes. Le même propriétaire était toujours très heureux, il avait assez même. Voyez, voilà comment le bon Dieu est content et il récompense ceux qui s'occupent de lui. Alors, voilà, faites comme Saint Isidore. Aujourd'hui, demandez à Saint Isidore. C'est pas sa fête aujourd'hui, c'est un autre jour. Mais vous pouvez le prier aujourd'hui, lui demander, voilà, la grâce de toujours mieux vous unir au prêtre qui offre le saint sacrifice. Pensez ce que vous faites à la messe. À la messe, vous offrez à Dieu un culte parfait. Jésus le rend à Dieu pour vous, mais vous vous unissez. Voyez. Offrez aussi par les mains de la Sainte Vierge. Mettez tout dans les mains de la Sainte Vierge et vous lui dites, demandez à la Sainte Vierge d'offrir ça à Dieu le Père. Et tout ce que la Sainte Vierge offre à Dieu le Père reçoit avec beaucoup de joie. Voyez. Alors vous ferez cela. Ne restez pas là à penser, à regarder les mouches. Bon, il n'y a pas encore de mouches, mais regardez pas à droite, à gauche, ce que fait le voisin, ce que font les autres. Non, occupez-vous pas de ça. Vous perdez votre temps, c'est dommage. C'est tellement dommage. Vous avez des petits missels, prenez-les. Lisez ces belles prières, en même temps que le prêtre. Les prières qui sont adressées à Dieu. Voilà. Et pensez que chaque fois que le prêtre dit « Oremus », ça veut dire que le prêtre dit « Prions, tous ensemble. » Voilà, pas seulement moi. « Que mon sacrifice, aussi dit, orate fratres, hein, prions mes frères, afin que mon sacrifice, dit le prêtre, qui est aussi le vôtre. » Voilà, ce n'est pas que le prêtre sacrifice, c'est aussi le vôtre, c'est votre sacrifice. Vous offrez un sacrifice au bon Dieu. Voilà, alors vous donnerez de la peine. Appliquez-vous bien. Suivez bien dans mon missel, répondez. Et le bon Dieu sera content. Et le bon Dieu est touché de cela. Il saura vous récompenser. Oui. Alors là, vous rendez les hommages à Dieu qui lui sont dus. Demandez à la Sainte Vierge de vous aider aussi. Elle était au pied de la croix quand Jésus s'offrait un sacrifice. Saint Jean aussi était au pied de la croix. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie de Cléophas. Demandez-leur aussi de bien vous aider à profiter de ces messes, d'offrir tout cela à Dieu le Père pour que Dieu le Père soit content. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je pense que vous vous réjouissez tous de voir venir la fête de Noël, hein, pour voir venir l'enfant Jésus dans la crèche. Eh bien, c'est à quoi nous invite toute la liturgie, les messes de ce temps de l'Avent. C'est des cris de joie dans la venue, des cris de désir que Jésus vienne, ce Rédempteur, ce Messie, ce Sauveur. Et c'est pourquoi, pendant ce temps de l'Avent, s'il n'y a pas une fête spéciale, on doit prendre les férilles. Même s'il y a des fêtes moins importantes, on doit tenir compte de la férie. Elle est de troisième classe. D'habitude, les férilles des autres temps de l'année sont de quatrième classe, sauf bien sûr du carême. Et aujourd'hui, c'est aussi une fête spéciale. Peut-être que vous savez, peut-être pas. Notre-Dame de Guadeloupe. Vous avez déjà vu cette image, peut-être, ou pas. Guadeloupe, c'est une vierge qui est vénérée au Mexique, donc en Amérique. Comment c'est arrivé? Eh bien, un jour, il y avait un homme qui s'appelait Diego, qui était un Indien converti, donc baptisé. Ça s'est passé en 1531, donc ça fait déjà bien longtemps. Et cet homme Diego était un très simple, un paysan, pauvre, mais toujours content, même content de sa pauvreté. Ce qu'il avait, c'est qu'il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Alors, tous les samedis, il avait l'habitude d'aller à Mexico pour prier, pour assister à la messe, pour aller devant les autels de la Vierge, ou aller orner un peu l'autel de la Vierge et prier. Il aimait faire cela. Alors, samedi, il partait le matin faire ses dévotions à Mexico. Il devait passer près d'une colline pour se rendre à Mexico. Et voilà que, un samedi du mois de décembre, tout d'un coup, il entend comme un concert. Tout d'abord, il ne fait pas trop attention, il pensait à la Sainte Vierge, qu'il voulait aller honorer, vénérer. Et puis, ce concert durait. Alors, au bout d'un moment, il a voulu regarder. Puis, il a vu que ça se situait un peu au loin. Alors, il s'est détourné un peu de son chemin. Et puis, arrivé près de cet endroit où il entendait ce bruit, il vit une petite nuée. Voilà, une petite nuée avec un lys de toutes les couleurs qui bordait cette nuée. Très surpris, il regardait ça, il admirait, et tout d'un coup il entend une voix qui sortait de cette nuée. « Je veux qu'ici on bâtisse un sanctuaire. » Il regarde autour de lui, personne. Il se frotte les oreilles, tiens, c'est curieux, il semble avoir entendu quelque chose. Alors il veut monter sur la colline, près de la nuée était un peu plus élevée. Il monte, et lorsqu'il arrive, il voit un trône avec une Vierge dessus assise. Son visage était brillant comme le soleil. De ses vêtements, il sortait des rayons si forts que tous les rochers qui étaient autour avaient l'aspect de pierres précieuses. Et cette Vierge lui dit, « Où vas-tu, Diego ?»« Ah, je vais à Mexico pour honorer la Sainte Vierge. » Alors elle lui dit, « Ah, tu m'es bien agréable par ta dévotion. Je suis cette Vierge que tu honores à Mexico. Je suis la mère de Jésus. » Alors vous comprenez la tête qu'a fait Diego. Il est tout surpris, mais comme il était simple et qu'il aimait beaucoup, la Sainte Vierge lui dit, « Va à Mexico, tu vas voir l'évêque, et tu lui dis que je veux qu'on baptise une basilique ici pour donner beaucoup de grâce à tous ceux qui viendront. Je veux que l'on sache que je suis votre mère du ciel qui pense à vous et qui veut vous donner des grâces. » Alors lui, pas tout content, il part à Mexico, il va voir l'évêque. Tout simple, il dit à l'évêque ce qui lui est arrivé. L'évêque l'écoute. L'évêque se dit, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est du démon? Faut savoir, pas toujours facile parce que le diable est des fois très malin, hein, il est rusé. Il se présente des fois sous un aspect beau, bon, mais il est méchant. C'est pour nous tendre des pièges. Alors il ne savait pas trop comment faire. Il écoutait comme il faut. Puis il dit à Diego, écoute, il faut un témoignage de plus. Ça ne suffit pas ce que tu me dis là. Je n'ai pas de preuves, rien du tout, il faut un témoignage de plus. Alors, si tu revois la Sainte Vierge, tu demandes un témoignage de plus pour être bien sûr que ce soit elle qui veut ça. Alors il est un petit peu triste, Diego. Il ne me croit pas tellement, on dirait. Alors il repart. Il a été après dans ses églises de Mexico, prier la Sainte Vierge, faire comme il faisait tous les samedis. Et puis, il reprend le chemin du retour et il repasse près de la colline. Alors à ce moment-là, il fait le petit détour pour aller au même endroit où il a entendu ce concert et vu cette vision. Et là, il revoit de nouveau la Sainte Vierge. Elle lui dit tout de suite, au sommet de la colline, tu vas cueillir des fleurs. Au mois de décembre, vous savez, il n'y a plus tellement de fleurs. Hein. Et puis c'était une colline où il y avait des buissons, des ronces, il n'y avait pas cultivé. On y mettait paître des troupeaux, mangeait un peu l'herbe qu'ils y trouvaient. Mais lui, comme il était simple, il aimait beaucoup la Sainte Vierge, tout de suite il est monté. Et quand il est arrivé en haut, il a vu un beau parterre de fleurs, mais des fleurs de toutes les couleurs, parfumées, tout ça. Alors il choisissait quelques fleurs dans ce parterre-là, était en admiration. Et puis, il est descendu. Les Indiens du Mexique avaient un habit spécial, un peu comme un scapulaire, c'est-à-dire une grande tissu qui descendait devant et derrière, comme les moines. Mais c'était un tissu grossier. C'était un habit qu'ils avaient pour comme une sorte de tablier. Alors, il prend ses fleurs, il relève le fond du tablier, il met dedans et il descend porter ça à la Sainte Vierge. Il montre ça, et puisque la Sainte Vierge lui a demandé d'aller cueillir les fleurs. Alors la Sainte Vierge prend ses fleurs, elle fait un beau bouquet, elle lui dit, bien, tu vas porter ça à l'évêque. Et, pas de fait de cas, il a fait demi-tour, et elle est allée voir l'évêque. Et partout où il passait, bien sûr, ses fleurs dégageaient un parfum agréable, et puis ce parfum s'étendait autour de lui. Tout le monde était étonné, il n'y avait pas de fleurs à cette époque-là. Toutes les fleurs étaient fanées, étaient gelées. Il n'y avait pas encore les serres, comme on a aujourd'hui, on ne cultivait pas les fleurs en hiver. Et bon, il arrive au palais épiscopal, il frappe, on vient l'ouvrir, mais le portier est très étonné. Mais qu'est-ce que vous avez aimé, ça sent si bon. Alors il lui fait ouvrir le tablier, puis il voit les fleurs. Il veut toucher une fleur, il s'aperçoit que c'est des fleurs en peinture. Comment des fleurs en peinture sentent comme ça? Il a dit, il faut que je voie l'évêque. Alors on va voir l'évêque. Le portier, très surpris, il appelle les autres, il dit, il faut venir voir, il y a quelque chose de pas normal. Il avait des fleurs en peinture, et mais ça sent comme ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Et il ouvre le manteau pour montrer les fleurs à l'évêque, mais qu'est-ce qu'il voit? L'image de la Sainte Vierge sur le tablier. Pas une seule fleur, mais l'image de la Sainte Vierge. Alors Diego qui regarde l'évêque et tous ceux qui étaient là, ils se sont mis à genoux. Et Diego, il ne comprenait pas comment on se met à genoux pour les fleurs. Puis il regarde et il voit qu'il y avait l'image de la Sainte Vierge. Une belle image. Alors l'évêque a dit, oui, permettez-moi de prendre ce manteau. Alors il lui a donné le manteau, le tablier. Et puis il a accroché le tablier dans sa chapelle et il lui a demandé l'explication. Alors Diego ne comprenait pas, il dit, moi j'ai mis des fleurs, la Sainte Vierge a fait un bouquet, il m'a mis dans le tablier, il me fallait que je vous montre ces fleurs. Alors l'évêque avait reçu la réponse. Alors le lendemain, il dit à Diego, eh bien, nous allons sur le lieu pour voir où c'est que ça s'est passé cela. Ils sont allés voir, mais lui il ne se rappelait plus tellement, il a dit, c'était peut-être par là, mais l'évêque voulait aller à l'endroit précis. Il ne se rappelait plus tout à fait l'endroit précis, puisqu'il était un peu surpris par la beauté de la Vierge. Il n'avait pas fait trop attention aux détails. Il a fait une petite prière, il dit, oh Notre-Dame, il faudrait m'aider à te retrouver. À ce moment-là, il y a une source d'eau qui a commencé à jaillir, à l'endroit précis où la Sainte Vierge était là. Alors l'évêque a donné l'ordre, voilà, et bien ici, nous allons bâtir une basilique, une église en l'honneur de la très Sainte Vierge Marie, pour qu'elle puisse répandre ses bénédictions et se montrer à nous comme sa maman. Alors on a construit une église, et puis quand l'église était terminée, on a apporté le tablier avec l'image qui était restée dessus. Et bien sûr, ça s'est dit partout, des grâces nombreuses étaient données, des miracles, les gens venaient, ils prenaient de cette eau, ils buvaient de cette eau, il y avait de ceux qui se guérissaient, il y avait des conversions, beaucoup de miracles, beaucoup de gens allaient en pèlerinage. Si bien qu'un jour ils se sont dit, ça ne suffit plus, il faut construire l'église plus grande. C'est beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde qui vient ici. Alors, ils ont construit une église encore bien plus grande en 1695. Plus de 100 ans après l'apparition. Et c'est l'église qu'on peut encore voir aujourd'hui. L'église de Notre-Dame de Guadeloupe, où on a mis la belle image vénérée sur le maître-autel. Et on peut encore aujourd'hui voir cette image, le même tablier. Cependant, il y en a de ceux qui ne voulaient pas accepter cette image. Il y a de ceux qui ont dit, ça c'est une peinture. C'est des gens qui ont fait de la peinture, puis après ils ont raconté une histoire en croyant que c'était une image miraculeuse. Pas du tout. On va vous montrer que ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'au bout des années, quelques années, il y avait un peintre qui avait un peu refait la peinture au fond, un petit peu autour, mais ils n'avaient pas touché le visage. Et puis, certains endroits, ils n'avaient pas touché. Et puis, alors ils ont fait des analyses avec des appareils, des microscopes, ils ont un peu essayé d'analyser qu'est-ce que c'est que cette peinture, est-ce que c'est vraiment de la peinture, puis ils se sont trouvés quelque chose de curieux. Ils ont analysé l'œil de cette image, et vous savez que quand vous regardez un objet, cet objet est reflété dans l'œil. Hein? Vous pouvez voir, si vous regardez dans l'œil de quelqu'un, vous pouvez voir une image imprimée dans son œil. Eh bien, en agrandissant l'œil de cette image, les savants ont trouvé qu'il y avait gravé dans l'œil de la Sainte Vierge l'image de l'évêque et de tous ceux qui étaient là lorsque Diego a déroulé son tablier. Alors ça, ce n'est pas un peintre qui a pu faire cela, c'est vraiment un miracle. Voyez, ça montre que c'est une image miraculeuse, comme quand un œil regarde un objet, l'objet se grave dans l'œil. Et bien là, dans l'œil de l'image de la Vierge, on voit l'évêque et tous ceux qui étaient à côté de lui qui ont regardé cette image. Voilà. L'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors il faut prier cette Vierge qui veut se montrer à nous comme une maman, qui veut nous donner beaucoup de grâce. Alors aujourd'hui, nous demanderons une grâce spéciale à Notre-Dame de Guadeloupe, de nous aider à être simples comme ce Diego. Vous voyez, il était simple et humble, et c'est ce qui a fait que la Sainte Vierge l'a beaucoup aimé, parce qu'il était tout simple et humble. Il était pauvre, mais il était content de cela. Il n'avait pas l'envie des autres, des biens des autres. Il était content. mais il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous donner aussi ces grâces qu'il a données à Diego, d'aimer la Sainte Vierge, et puis aussi de nous préparer à la venue de Jésus, à Noël. Préparons bien nos cœurs par des sacrifices. Faites tous les jours des petits sacrifices, des pénitences. C'est une excellente façon, voyez, de nous préparer à la venue de Jésus. Jésus est venu dans la crèche, à Noël, mais Jésus vient dans votre petit cœur, comme dans la crèche de Bethléem. Comment voulez-vous que votre cœur soit? Est-ce que vous voulez un cœur froid, sombre, humide, ou un cœur avec des fleurs, un cœur chaud, réchauffé par la vertu de la charité, un cœur éclairé par la foi? Voyez, alors, voilà, nous allons demander à la Sainte Vierge de préparer notre cœur pour la venue de Jésus et que nous le recevions toujours mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est arrivé une époque, il y a déjà bien longtemps, où les hommes s'étaient refroidis, c'est-à-dire les hommes avaient perdu la belle ferveur d'autrefois. Ils étaient devenus plus tièdes. Pourquoi cela ? Il y a eu à cette époque une révolution dans l'Église avec Luther, qui raconta des bêtises, des hérésies, et qui enleva la ferveur aux gens. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu Jansénius, c'était aussi un qui était trop sévère. Alors il avait fait enlever, il avait fait perdre l'idée de la bonté de Dieu. Et alors, Jésus a voulu donner au monde une dévotion pour renflammer les cœurs, pour redonner au cœur l'amour du bon Dieu. Il a voulu nous donner la dévotion au Sacré-Cœur. Elle était déjà connue, bien sûr. Vous savez que Saint Jean, lorsque c'était le jeudi saint, Saint Jean avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus et il avait entendu battre son cœur. Et puis, le cœur de Jésus avait été transpercé lorsqu'il était attaché sur l'arbre de la croix par le soldat. Mais on n'avait pas encore la dévotion au Sacré-Cœur comme on connaît aujourd'hui. Et pour cela, le bon Dieu s'est choisi une âme, la sainte, que nous fêtons aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé dans vos missels, quel saint c'est. Sainte Marguerite Marie. Alors il a choisi Sainte Marguerite Marie pour nous faire connaître cette dévotion au Sacré-Cœur, pour redonner de la ferveur aux âmes, pour faire connaître davantage l'amour que Dieu a pour nous et pour que nous l'aimions en retour. Mais quand le bon Dieu donne des grâces particulières à quelques personnes, à quelques âmes, il leur fait payer ces grâces. Ça coûte cher. Elles doivent beaucoup souffrir. Eh bien, Sainte Marguerite Marie a beaucoup souffert. Mais déjà tout petite, elle avait reçu une bonne éducation, elle aimait le bon Dieu et elle avait une horreur du péché. Une telle horreur du péché que dès qu'elle faisait quelque chose de mal et qu'on lui disait « c'est mal, ça fait de la peine à Jésus », tout de suite elle s'arrêtait et ne le faisait plus. Elle ne voulait jamais faire de la peine au bon Dieu. Elle savait que les péchés lui faisaient de la peine, le faisaient souffrir. Alors elle ne voulait pas. Il suffisait de lui dire « ça fait de la peine à Jésus » et c'était fini. Elle ne faisait pas, elle s'arrêtait tout de suite. Et à 8 ans, elle avait l'âge que certains d'entre vous ont, elle a perdu son papa. Son papa est mort. Alors sa maman, qui avait beaucoup d'enfants et qui ne pouvait s'occuper de tous, elle l'a mis dans un collège, dans un internat tenu par des religieuses. Et là, formée par ces religieuses, elle a appris à aimer encore davantage le bon Dieu, à pratiquer la vertu. Elle était devenue si vertueuse qu'elle se prenait toujours pour la moindre des autres. Par exemple, quand il y avait des fruits qui étaient présentés sur la table, elle prenait toujours le fruit le plus vilain, celui qui était un peu pourri, et elle laissait les plus beaux fruits aux autres. Voyez ? Elle choisissait toujours ce qui faisait qu'elle était moins estimée. C'est étonnant. Elle était arrivée à un grand degré d'humilité. Et elle aimait ça. Elle aimait souffrir aussi. C'est étonnant aussi. Mais parce qu'elle savait que la souffrance, eh bien, obtenait de nombreuses grâces. Elle aimait faire aussi des sacrifices. Quand les autres enfants n'aimaient pas faire certains travaux, par exemple nettoyer les couloirs ou nettoyer les toilettes, tout ça, et elle allait volontiers nettoyer pour faire plaisir à Jésus, voilà, pour obtenir les grâces. Et Jésus la formait, s'occupait de lui donner des vertus. Et plus tard, elle est tombée gravement malade. Et pendant 4 années, elle ne pouvait même plus se lever. Alors, elle a beaucoup prié. Et puis, son amour de la Sainte Vierge était tellement grand que la Sainte Vierge l'a guérie. Au bout de 4 ans, elle a retrouvé la santé. Alors, elle était, vous pensez bien, pleine de reconnaissance envers la Sainte Vierge, envers le bon Dieu. Mais, ayant eu une bonne santé, à un moment donné, elle commençait à prendre plaisir aux choses du monde. Elle prenait plaisir à être en compagnie, et même, quelquefois, elle dit une fois, elle est allée à carnaval, elle s'est déguisée, mais après elle a beaucoup regretté. Elle s'est déguisée à carnaval, puis elle a été un peu jouée avec les autres, mais elle a beaucoup regretté ça. Comme le bon Dieu a vu qu'elle avait un peu perdu sa ferveur, alors, de nouveau, il fit qu'elle tomba malade, au moins longtemps, mais assez gravement quand même. Alors là, elle s'est dit, oh, si j'ai guéri cette fois-ci, eh bien, je me donne tout au bon Dieu. Et elle fut guérie de nouveau, après ce temps-là. Alors elle se donna plus tard au bon Dieu. Elle entra dans une maison religieuse, elle se fit religieuse. Mais là, elle a eu beaucoup à souffrir. Parce que les autres religieuses ne l'ont pas comprise tout de suite. Le bon Dieu s'occupait d'elle. Souvent, elle voyait Jésus qui lui parlait et qui lui faisait faire des choses qui la rendaient méprisable aux yeux des autres. Alors les autres la critiquaient et disaient « C'est une drôle de religieuse, cela, elle se prend pour une voyante. » Vous voyez ? Elle disait, non, c'est pas une vraie religieuse, cela. Elle fait semblant d'être religieuse, elle veut qu'on voit qu'elle est religieuse, qu'elle prie, qu'elle va faire des visites au Saint-Sacrement. Et c'était pas vrai. Elle faisait ça vraiment par amour pour le bon Dieu, mais les autres ne l'avaient pas compris. Alors ils la critiquaient, ils ne l'aimaient pas. Et elle souffrait beaucoup de cela. Mais elle offrait toujours tout au bon Dieu. Elle aimait beaucoup aller au Saint-Sacrement. Elle allait trouver souvent Jésus dans le tabernacle. Elle restait auprès de lui parler, lui demander son aide. Et puis un beau jour, eh bien le Sacré-Cœur lui a dit, « Maintenant, je te confie une mission. Oui, il faut que tu fasses connaître mon Sacré-Cœur partout, dans le monde entier. Que tu fasses savoir que ce cœur brûle d'amour pour toutes les âmes et qu'il n'a qu'un désir, c'est que toutes les âmes aiment mon Sacré-Cœur. » À ce moment-là, on n'avait pas encore la dévotion au Sacré-Cœur. Eh bien, il y a eu beaucoup de difficultés, elle a eu beaucoup de peine, elle a beaucoup souffert à cause de cela. Elle a voulu faire connaître ça, puis on se moquait d'elle. On disait, c'est une nouvelle dévotion. Bon Dieu lui a fait payer cher cette dévotion au Sacré-Cœur. Mais elle, comme elle savait que ça venait de Jésus, elle ne s'occupait pas. Tant pis, si on se moque de moi, ça fait rien. Moi, je veux rester et je veux faire plaisir à Jésus, c'est ce qui m'intéresse. Et elle a rencontré un brave prêtre, un jésuite, qui était là, le bon Dieu avait envoyé sur place. Lui, alors, il l'avait comprise. Et grâce à ce prêtre, eh bien, cette dévotion a commencé à être connue, à être aimée. Où était Sainte-Marguerite-Marie ? Il y avait aussi un collège de jeunes filles. Alors elle s'occupait des jeunes filles, elle essayait de leur faire aimer le Sacré-Cœur, elle leur parlait. Alors les enfants l'écoutaient. Mais elle faisait encore des sacrifices pour que les enfants aiment davantage le Sacré-Cœur. Alors quelquefois, les enfants laissaient traîner un morceau de pain. Ils ne mangeaient pas tout leur pain. Alors elle prenait en secret ces morceaux de pain, puis elle les mangeait pour ne pas les laisser perdre, vous voyez. Elle mangeait les restes des autres par sacrifice. Et le bon Dieu avait grand plaisir de voir tous les sacrifices qu'elle faisait et donnait de nombreuses grâces. Surtout pour étendre cette dévotion au Sacré-Cœur. Alors ce prêtre qui était venu, que le bon Dieu avait envoyé, et qui comprenait, s'appelait le bienheureux Claude de la Colombière. Et lui, il l'avait comprise, et il avait fait tout ce qu'il avait pu pour aider cette dévotion au Sacré-Cœur. Et au bout de nombreuses années, eh bien, petit à petit, l'évêque avait été mis au courant. On commença à avoir la dévotion au Sacré-Cœur. Et là, le Sacré-Cœur avait demandé que le vendredi qui suivait l'octave de la fête de Dieu, eh bien c'était la grande fête du Sacré-Cœur. Et que le mois de juin, c'était le mois du Sacré-Cœur. Et plus tard, eh bien le Sacré-Cœur avait demandé à un autre prêtre, le Père Matteo, d'introniser le Sacré-Cœur dans les familles. C'est pour ça que dans plusieurs de vos familles, vous avez le bonheur d'avoir le Sacré-Cœur. Est-ce que vous pensez au Sacré-Cœur qui est dans votre famille? Est-ce que vous allez le voir souvent? Est-ce que vous allez lui dire les joies et les peines que vous avez eues? Ce que vous avez fait à l'école? Voyez? Alors allez, ne l'oubliez pas le Sacré-Cœur. Il vient, il est venu dans vos familles pour vous aider, pour vous aimer et pour être avec vous, pour partager vos joies et vos peines, vos soucis de chaque jour. Alors aimez ce Sacré-Cœur. Et bien aujourd'hui, nous allons prier spécialement Sainte Marguerite Marie qui n'avait qu'un désir, c'est qu'on aime le Sacré-Cœur. Nous allons lui demander que nous aimons toujours plus le Sacré-Cœur, que nous le comprenions davantage et que nous ayons une dévotion envers ce Sacré-Cœur. Voyez. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir le Sacré-Cœur dans leur foyer, aujourd'hui, quand vous rentrez à la maison, vous irez trouver le Sacré-Cœur et vous ferez une prière spéciale. Vous le remercierez d'avoir révélé ce Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Vous ferez une prière à Sainte Marguerite Marie pour la remercier d'avoir accepté toutes ses moqueries, d'avoir accepté de souffrir tout ce qu'elle a souffert pour nous faire connaître le Sacré-Cœur et nous le faire aimer. Et nous demanderons aussi à la Sainte Vierge, vous savez que le cœur de Marie est toujours uni avec le cœur de Jésus, et bien de nous aider aussi à aimer Jésus, à aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Et à toujours bien l'accueillir dans nos foyers. Voilà. Et prier aussi pour que d'autres foyers puissent recevoir le Sacré-Cœur. Il y a encore d'autres foyers qui n'ont pas reçu le Sacré-Cœur chez eux. Alors priez pour que ces foyers, que Jésus puisse entrer dans ces familles aussi. Il frappe aux portes et il voudrait entrer dans toutes les familles. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour qu'il puisse entrer dans toutes les familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez peut-être tous regardé dans votre missel pour savoir quelle fête nous célébrons aujourd'hui. C'est la fête d'un grand saint, Saint Matthieu. Peut-être vous le connaissez, mais vous avez certainement entendu parler de lui, et souvent à la messe. Saint Matthieu est un apôtre et en plus un évangéliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les apôtres, est-ce qu'ils ne sont pas évangélistes? Non, tous les apôtres ne sont pas des évangélistes. Je vous l'avais expliqué l'année dernière à une leçon de catéchisme, lors d'une fête d'un des évangélistes, qu'il y a 4 évangélistes. Ce sont ceux qui ont écrit la vie de Jésus et que l'on a mis dans un livre que l'on appelle l'Évangile dans le Nouveau Testament. Et parmi ces 4 évangélistes, il y en a 2 qui sont apôtres. Saint Matthieu, que nous fêtons aujourd'hui, et Saint Jean. Tandis que les 2 autres évangélistes, Saint Luc et Saint Marc, ne sont pas des apôtres. Vous avez entendu l'évangile qui nous parle de ce Saint Matthieu qui suivit Jésus lorsque celui-ci l'appela. Saint Matthieu, tout d'abord, s'appelait Lévi. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Eh bien, c'était un percepteur d'impôts. Et les Juifs ne les aimaient pas Pourquoi? Eh bien parce que ça rappelait la domination romaine. Les Romains dominaient en Palestine et les Juifs étaient mécontents. Eux, ils voulaient leur liberté, leur indépendance, et ils ne voulaient pas des Romains par là. Et alors tous ceux qui rappelaient cette domination romaine, ils n'aimaient pas cela, les impôts surtout. Alors Matthieu n'était pas aimé des Juifs. Et un jour, notre Seigneur passe près du lac de Tibériade, où se trouvait Saint Matthieu. Il le regarde, et en même temps qu'il le regarde, Saint Matthieu reçoit la lumière. Son âme est éclairée, il comprend. Et dès que Jésus l'appelle, il quitte tout. À l'instant, il se lève, il règle les affaires et il suit Jésus. Il était tellement heureux, tellement content, qu'il se dit, je vais faire un grand festin ce jour-là, et puis je vais inviter tous les percepteurs d'impôts, tous mes amis, les publicains, et ils verront qui c'est Jésus. Jésus leur fera beaucoup de bien, comme il a fait à moi. Et c'est ce qui est arrivé. Il a fait un grand festin, on a invité tous ses amis, et Jésus était présent. Alors, les Juifs étaient mécontents. Ils ont dit à ses disciples, « Quoi ? Votre maître va manger avec des pécheurs publics ?» Les publicains étaient considérés comme des pécheurs publics. Jésus, maître, votre maître, il va manger avec eux ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il ne sait pas que c'est des pécheurs, on ne va pas avec les pécheurs. Et Jésus, plein de bonté, va les trouver et leur dit, « Je ne suis pas envoyé pour les bien portants, mais pour les pécheurs. » Quelle consolation ! Quel bonheur pour nous que cette phrase de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, pour guérir les pécheurs, pour sanctifier. Alors, on doit être encouragé à aller auprès de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il nous soignera, il guérira nos âmes. Et ensuite, donc Saint Matthieu quitta tout, quitta son emploi et suivit Jésus. On parle très peu de Saint Matthieu dans l'Évangile, il n'a rien fait de spécial. Et ensuite, après la Pentecôte, ils ont parcouru la Palestine pour enseigner la bonne nouvelle, l'Évangile, la nouvelle du royaume des cieux, du règne de Jésus qu'il faut étendre dans les âmes. Il y avait des Juifs qui se convertissaient. Le jour de la Pentecôte, 3000 Juifs se sont convertis. Venus de partout à Jérusalem pour les fêtes. Et puis quelques jours après, 5000 se sont convertis. Alors ils étaient émerveillés quand on leur racontait la vie de Jésus. Et plusieurs disaient, mais écrivez-nous quelque chose, nous aimerions avoir cette vie de Jésus parce que vous ne pouvez pas rester tout le temps parmi nous, vous devez aller ailleurs, voir d'autres fidèles, d'autres peuples, écrivez-nous quelque chose. Alors Saint Matthieu écrivit la vie de Jésus. Les évangiles, c'est la vie de Jésus racontée. Alors il l'écrivit en syriaque. Syriaque, c'était la langue que les Hébreux parlaient à ce moment-là. Puis, ensuite, il y a eu les persécutions. Et le bon Dieu les appela les apôtres à aller prêcher plus loin que la Palestine. Saint Paul alla partout, même jusqu'à Rome. Saint Pierre alla au Rome. Et Saint Matthieu, lui, il alla en Éthiopie. Pour y aller, il traversa l'Égypte. Et partout où il passait, il convertissait des âmes. Il leur annonçait cette bonne nouvelle du royaume des cieux qui est venu sur la terre, du Rédempteur, Jésus, qui nous a rachetés et qui nous offre le ciel. Puis il poursuit sa route et arrive en Éthiopie. Et là, il fut accueilli par quelqu'un qui avait déjà été baptisé. Tout surpris, comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a déjà des apôtres qui sont arrivés chez vous ? Comment ça se fait que tu es baptisé ? Alors il lui raconta son histoire. Il dit qu'un jour il était à Jérusalem pour une grande fête et qu'en rentrant de Jérusalem sur son char, il essayait de lire la Sainte Écriture et il ne comprenait pas et que tout d'un coup, il passa à côté de quelqu'un qui marchait sur la route et qui lui dit « Hé là, est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Ce serviteur de la reine de Candace répondit, comment voulez-vous que je comprenne si personne ne me l'explique? Il lui dit, bien monte sur le char puis explique-moi ce passage de l'écriture. Et ce monsieur qui marchait sur la route, c'était Philippe. Alors il lui expliqua avec tant d'enthousiasme que l'autre lui dit, bien qu'est-ce qu'il me faut faire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être baptisé? Et alors Philippe lui dit, bien si tu crois en Jésus-Christ, tu peux être baptisé. ce serviteur de la reine de Candace dit « Oui, je crois ». Alors il a été baptisé par Philippe. Et dès que le baptême eut lieu, tout d'un coup, Philippe disparut. Il fut pris par un ange et porté ailleurs. Il est parti tout joyeux dans son pays, qui était l'Éthiopie. Alors il était déjà baptisé. Et quand Saint Matthieu arriva, alors il fut très heureux de l'accueillir. Il lui fit connaissance un peu de tous ses amis. Mais il y avait là, dans cette ville, deux magiciens. Et ces magiciens, ils jetaient la terreur parmi les gens de la ville. Ils travaillaient avec le diable. Ils faisaient que les gens tombaient malades. Alors quand les gens étaient malades, ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils allaient vers eux et puis ils les guérissaient. Alors ils disaient, alors il faut mieux être bien avec eux, sinon on aura les pires ennuis. Et quand Saint Matthieu arriva, il remarqua ces deux magiciens. Ils faisaient des miracles. Il tranquillisa les gens et leur montra que ces magiciens, c'était de ceux qui faisaient le mal. C'est eux qui leur donnaient les maladies. Et puis qui pouvaient les guérir après, parce qu'ils travaillaient avec le diable. Alors quand les magiciens virent que Saint Matthieu leur avait fait connaître cela, ils étaient devenus furieux. Ils ont dit, nous, il faut faire quelque chose. Sinon, tout le monde va nous échapper. Alors ils ont fait venir deux dragons dans la ville. Deux dragons terribles qui jetaient la terreur parmi tous les gens. Alors Saint Matthieu alla vers les dragons, il fit le signe de la croix, et ces dragons si terribles sont devenus doux comme des agneaux. Et Saint Matthieu leur dit, maintenant vous retournez dans votre caverne. Et ils sont partis dans la caverne. Alors les gens commençaient à avoir confiance en Saint Matthieu, ils l'écoutaient plus volontiers, et beaucoup se convertissaient. Et un jour arriva un événement terrible, le fils du roi mourut. Alors on fait venir les magiciens, rien à faire. Ils ont tout essayé, le fils du roi était mort. Alors on fit venir Saint Matthieu, et lui, il ressuscita le mort au nom de Jésus-Christ. Alors, le roi était heureux, la reine aussi, retrouver leur fils unique. Ils avaient bien une fille, mais ils comptaient sur le fils pour succéder au royaume. Et il se convertit, ainsi que la cour, et toute la province se convertit. Puis, quelque temps après, le roi mourut. Et le frère du roi, Hirtas, qui était méchant, il voulut marier la fille du roi, Iphigénie. Mais elle avait été souvent écoutée, Saint Matthieu, quand il prêchait, et elle voulait vivre que pour Dieu. Elle ne voulait pas se marier. Elle voulait rester vierge et vivre comme les religieuses aujourd'hui. Une vie de prière, de pénitence, loin du monde. Et Saint Matthieu lui avait conseillé de se retirer dans une maison avec d'autres jeunes filles qui voulaient faire pareil et de vivre comme les religieuses le font aujourd'hui. Et Hirtas voulait la marier. Alors il essaya d'aller la trouver et lui demanda en mariage. Elle dit non. Non, maintenant je suis mariée à Jésus-Christ. Je vais vivre pour lui. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais trouver Matthieu. Lui, il a beaucoup d'influence sur elle et par lui, je vais pouvoir l'obtenir en mariage. Alors il alla voir Matthieu, Saint Matthieu, qui lui dit, eh bien, demain, venez, je vais prêcher à ces jeunes, venez, et vous écouterez ce que je leur dirai. Alors il se réjouissait, il disait, ça y est, cette fois-ci, il va lui faire accepter qu'elle se marie avec moi. Et il alla, et il leur parla de cet état de la virginité, de cette vie pour Dieu, de leur vocation, si bien qu'il les encourage encore davantage. Alors Hirtas fut si furieux qu'il sortit de cette chapelle, il alla chercher des soldats, des bourreaux, et après cette conférence, Saint Matthieu disait la messe, et quand il lui dit la messe, arrivèrent les bourreaux qui le frappèrent et le tuèrent. Et voilà, Saint Matthieu mourut martyr. Martyr pour avoir encouragé les jeunes à la virginité. Eh bien, nous demanderons aujourd'hui à cette fête de Saint Matthieu, il y a une grande fête au ciel aujourd'hui, qui est faite en l'honneur de Saint Matthieu, eh bien, nous demanderons à Saint Matthieu de nous aider à aimer Jésus, comme lui, il a aimé Jésus, à répondre toujours quand Jésus nous appelle à faire des sacrifices. Vous savez, suivre Jésus, c'était un sacrifice. Donc, nous avons aussi des sacrifices. Jésus nous appelle à des choses ici-bas. Comment est-ce qu'il nous appelle? Par nos parents,
C'est Jésus qui demande des choses par nos parents. Rendre service à nos parents. Ce que les parents nous commandent, c'est Dieu qui nous commande. Et donc, nous demanderons à Saint Matthieu de toujours dire oui. Sans hésiter. Même si ça nous coûte. Au contraire, plus ça nous coûte, plus nous dirons oui. Car plus nous aurons de mérite. Et nous demanderons aussi à la Sainte Vierge de nous aider à imiter Saint Matthieu. Aussi à connaître la vie de Jésus en lisant souvent la Sainte Écriture, les saints évangiles qui nous racontent la vie de Jésus. Et nous demanderons aussi cette fermeté dans la foi, comme Saint Matthieu a été ferme, et de parler autour de nous de Jésus, comme Saint Matthieu l'a fait durant toute sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la fête d'un grand pape, mais qui a vécu il y a déjà très longtemps. Saint Léon le Grand. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est un saint, un grand saint qui a fait énormément pour la Sainte Église. Il est né à Rome. Le bon Dieu lui a donné de grandes qualités. Il aimait beaucoup l'étude. Il s'appliquait aussi avec beaucoup d'ardeur à apprendre tout ce que les études lui permettaient de connaître. Mais surtout, ce qu'il désirait apprendre le plus, c'était les Saintes Écritures. C'est ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui le catéchisme. Tout ce qui regardait la révélation que le bon Dieu avait donnée. Ça, il aimait tout particulièrement étudier les lettres de Dieu, la Bible, enfin toutes les Saintes Écritures, les Écritures des Pères, tout ça. Et il se fit remarquer très vite par les papes d'alors. Ils lui ont demandé de venir avec eux pour les aider dans le travail d'apostolat. Et il devint archidiacre, c'est-à-dire qu'il avait reçu une fonction dans l'Église. Et il était remarquable, alors on l'envoyait souvent pour des missions dans différents endroits. Et puis il y avait en France une grande difficulté entre un gouverneur et un général. Sixte III l'a envoyé pour aller régler la difficulté entre ce gouverneur Essius et le général Albinus. Et pendant qu'il était parti, c'était des voyages qui duraient longtemps, il n'y avait pas de train, il y avait pas. On se déplaçait pendant des mois et des années, des fois. Et pendant ce temps-là, le pape est décédé. Le pape Sixte III est mort. Alors, les cardinaux se sont réunis. Ils ont dit, maintenant, il nous faut choisir un autre pape, il faut élire un autre pape. Qui est-ce qu'on va élire comme pape ? C'est qu'il fallait choisir quelqu'un de très bon. Alors ils se sont tous réunis et ils ont prié. Et ensuite, ils ont élu Saint Léon, pape. Mais il n'était pas là. Il était en voyage, en train d'aller régler des affaires entre ce gouverneur et puis aussi un peu s'occuper des églises. Alors on a envoyé une délégation pour le faire revenir plus vite. Et quand il est arrivé, alors on a fait une grande fête dans Rome pour l'accueillir avec beaucoup de solennité. Et puis, il a été donc choisi et élu pape. C'est que quand il a été élu pape, c'était pas rien. L'Église était dans un drôle d'état. C'était en l'an 400 et quelques. Oui, donc c'était au début, c'était juste après les persécutions. Les persécutions sanglantes des martyrs avaient cessé en 315. Et là, on était en 400, donc ça faisait pas beaucoup de temps après ces persécutions. Comme le démon n'avait pas pu réussir à éteindre le catholicisme par les persécutions, par les martyrs, alors il s'est débrouillé autrement. Il a commencé à faire des hérésies. Et bien du temps de Saint Léon, il y avait beaucoup d'hérésies. Il y avait les manichéens, il y avait les donatistes, il y avait les ariens, il y avait les priscillianistes, il y avait les nestoriens et il y avait les eutychiens. Ça en faisait tout cela. Et il répandait ses erreurs pour troubler. C'était le démon qui se servait d'eux pour éloigner les âmes de la vraie religion, pour les jeter dans l'erreur pour qu'ils ne puissent pas entrer au ciel. C'était terrible. Alors voilà la situation qu'il y avait du temps de Saint Léon. Alors Saint Léon a fait beaucoup de travail pour lutter contre ces erreurs. Il a écrit des lettres, il a prêché, il a formé des théologiens, des prédicateurs pour aller contrer ses erreurs et enseigner la vérité, seule vérité par laquelle on peut aller au ciel. La plus difficile, c'était les eutychiens qui disaient que Jésus-Christ n'avait qu'une seule nature. Vous savez tous, hein, comme vous connaissez votre catéchisme, vous savez qu'en Jésus-Christ, il y a une personne et deux natures. La nature divine et la nature humaine. Eh bien, les éthiquiens disent non. En Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne, c'est juste, mais il n'y a qu'une nature. La nature divine, qui est tellement puissante, tellement grande, qu'elle a absorbé la nature humaine. Alors, c'était une erreur terrible. Parce que si Jésus n'avait pas la nature humaine, il n'a pas pu s'incarner et il n'a pas pu nous racheter. Parce que s'il n'était pas homme, il ne pouvait pas souffrir. Comme Dieu ne peut pas souffrir, si Jésus n'était pas homme, il ne pouvait pas souffrir, il n'a pas pu nous racheter. Le pape Saint Léon a réuni un concile en Chalcédoine, dans une ville, à la ville de Chalcédoine. Il a réuni plus de 600 évêques et ils ont étudié ce problème et ils ont défini la vérité chrétienne. Ils ont précisé la vérité chrétienne et ils ont condamné l'erreur d'Eutychus. Il y avait toujours encore quelques-uns qui essayaient de faire répandre des erreurs. Alors un jour, le pape leur a écrit une lettre à un de ces hérétiques. Il est allé sur le tombeau de Saint-Pierre, il a posé la lettre et il a prié pendant 4 jours, en faisant pénitence et en priant, en disant « Oh, s'il y a des erreurs dans ma lettre, veuillez les corriger. » Et au bout du 4e jour, Saint-Pierre lui est apparu et lui a dit « J'ai lu ta lettre et j'y ai apporté les corrections qu'il fallait. » Et en fait, il a été rechercher la lettre, il a vu que ce qu'il avait écrit lui et les corrections que Saint-Pierre avait apportées sur sa lettre. Saint-Pierre était mort déjà depuis 400 ans, bien 300-400 ans. Donc c'était un miracle. Alors il a envoyé cette lettre et bien sûr, tout le monde, quand ils ont su que ça a été corrigé par Saint-Pierre, alors ils ont reçu ça avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de révérence. Et ils ont tenu compte en disant « Saint-Pierre a parlé par Saint-Léon ». Mais le démon n'était pas content comme ça. Alors après, il y a eu Attila. Vous avez entendu parler d'Attila, un terrible, on appelait Attila le fléau de Dieu, qui est venu sur l'Italie avec une foule de barbares, une troupe nombreuse de barbares. Et ils passaient partout où ils allaient, ils mettaient le feu, ils brûlaient les villes, ils tuaient. Il pillait, il ne restait plus que des cendres. Où Attila passait? Il était devenu le maître de l'Aquilée, c'était une région d'Italie. Il a réduit en cendres, il a mis le pays à feu et à sang, il a saccagé Milan, il s'est emparé de Pavie. Et l'empereur, devant une pareille troupe de barbares qui était très puissante, il a pris la fuite avec tous ceux qui étaient avec lui. Ils sont partis à Rome, se cacher dans la ville de Rome, derrière les murs. Ils ont dit là peut-être, on va peut-être échapper. Et c'est qu'Attila commençait à envahir toute l'Italie. Il descendait sur Rome. Et tout le monde disait les ravages qu'avait fait Attila. Alors tout le monde craignait, tremblait de peur. L'empereur, il ne sait plus quoi faire. Alors les gens sont allés voir Saint-Léon. Puis ils ont dit, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. On est perdu, il faut que vous fassiez quelque chose, sinon on sera détruit. Il va brûler, saccager Rome, nous tuerons tous. Il faut faire quelque chose. Faire quoi? Alors Saint-Léon leur a dit, eh bien vous allez prier. Mettez-vous un peu à prier là. Priez pas assez. Alors, ils se sont mis à prier, à faire pénitence. Puis un beau jour, Saint-Léon est sorti de Rome avec quelques personnes. Il est allé au devant d'Attila. Et quand il a vu au loin Attila arriver, il a mis la tiare, les habits pontificaux. Et Attila est arrivé, il a été très doux. Saint-Léon lui a dit, maintenant tu retournes chez toi. Tu nous laisses tranquilles. Et alors il a tout accepté. Attila est parti avec ses armées. Alors tous ceux qui étaient avec Attila, ils ont dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Bon, on vous a jamais vu faire comme ça. Jamais personne vous a résisté. Et voilà qu'un homme là, vous fait tout accepter et vous retournez. Alors Attila dit, mais sur la tête de Saint-Léon, il y avait un pontife terrible. Avec ses yeux étincelants, une épée tranchante qu'il dirigeait sur moi. Alors j'ai été saisi d'effroi et j'ai accepté ce qu'il a dit. Autrement, on aurait été tous tués. Voyez la puissance. Alors, Attila est reparti. Les Romains étaient tous très contents, très heureux. Saint Léon rentre à Rome et a dit, bien maintenant, il faut remercier le bon Dieu. C'est grâce à Dieu que nous avons été délivrés de ces barbares qui nous auraient tous détruits. Alors, comme remerciement, nous allons faire une grande fête.
dans notre basilique. Et nous allons prier en remerciement. Mais les Romains étaient tellement contents et ils n'ont pas tellement écouté Saint-Léon. Et ils ont fait la fête. Tellement ils étaient heureux, mais ils ont fait la fête avec plein de désordres. Ils ont fait des jeux, du cirque et de toutes sortes. Et ils ont offensé le bon Dieu. Alors Saint-Léon leur a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, vous allez vous faire châtier par le bon Dieu. C'est impensable. Le bon Dieu vous a délivré d'un ennemi dangereux, et puis maintenant, vous offensez encore le bon Dieu par vos fêtes mondaines, païennes. Alors, il leur a demandé de faire pénitence, mais les Romains, maintenant, ils ont dit, plus de danger, eh bien, c'est fini, la vie est belle. Et ils n'ont pas fait pénitence, ils n'ont pas remercié le bon Dieu pour cela. Et c'est que plus tard, eh bien, c'est un autre danger qui est arrivé. C'était Jean Siric, roi des Vandales, qui avait envahi l'Afrique, envahi la Corse, envahi la Sicile, et qui se dirigeait de nouveau sur Rome, qui allait envahir Rome. Alors de nouveau les gens, pleins de peur, ben, cette fois-ci on est perdu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous punit, Dieu nous châtie, parce qu'on n'a pas remercié le bon Dieu de nous avoir délivrés d'Attila. Alors de nouveau, on va voir le pape. Ben, on dit, eh bien écoutez, il faut faire quelque chose, allez voir Jean Siric, sinon on est perdu. Alors le pape lui a dit, ma foi, ça c'est la punition du bon Dieu. On n'avait pas été reconnaissant, on n'avait pas remercié le bon Dieu des bienfaits qu'il vous a accordés, de la protection. Eh bien, ma foi, il y aura ce que le bon Dieu permettra. Alors, il est quand même allé, à nouveau, au-devant de Jean Siric. Il a parlé avec Jean Siric. Et Jean Siric a dit, d'accord, j'accepte de ne pas brûler la ville, ni de tuer, mais nous viendrons et nous volerons tous les biens. Il fallait accepter le moindre. Ils n'ont pas pu empêcher ça. Alors il est entré dans la ville et il a volé tous les biens, toutes les richesses, tout ce qu'il y avait dans la ville. Il n'a pas tué, il n'a pas brûlé la ville. Voilà, le bon Dieu a permis qu'il soit quand même châtié par ça. Et quand même, on avait caché les ornements d'église, on avait caché tout cela, bien sûr, pour pas que ce soit volé par ces vandales. Et une fois que les vandales ont tout pillé, tout volé, ils sont partis. Saint-Léon leur a dit, maintenant, faites pénitence, sinon le bon Dieu permettra encore que vous soyez châtiés autrement. Et il a continué à faire du bien en envoyant tous ces évêques, ces prêtres qui ont été persécutés par ces vandales de l'Afrique, de la Corse, de la Sicile. Alors il leur a envoyé un peu des ornements d'église pour qu'ils puissent de nouveau recélébrer les saints mystères, le saint sacrifice de la messe. Et il leur avait enseigné à Rome, il a dit, eh bien les vraies richesses, ce sont les biens spirituels. Le bon Dieu a permis que vous soyez privés de vos biens matériels parce que vous les usiez mal. Mais les vraies richesses, c'est les biens spirituels, les biens de la grâce. Aimez la pauvreté, soyez humbles. Les riches peuvent difficilement entrer au ciel, comme Jésus l'a dit. Donc, aimez la pauvreté, la simplicité. Et depuis cela, depuis ce jour-là, ils ont écouté Saint Léon. Et il y a eu un grand changement. Les Romains se sont mis vraiment à vivre plus chrétiennement qu'avant. Avant, ils étaient encore tout pénétrés du paganisme. Voilà, et après tout ça, eh bien, Saint-Léon a rendu son âme à Dieu. Il a été 21 ans pape à Rome. On a beaucoup d'écrits de sa plume. Saint-Léon a déjà dû lutter beaucoup contre les hérésies. Mais il était très courageux. Il n'a pas accepté que les erreurs entrent parmi les catholiques. Parce que, avec les erreurs, on ne peut plus aller au ciel. Alors, il nous faut prier aujourd'hui Saint-Léon. Courageux contre les hérésies, courageux contre les ennemis de l'Église, contre les ennemis de Dieu. Il faut qu'on le prie pour qu'il nous aide. Nous aussi à être courageux, à être des vrais chrétiens, à ne pas avoir peur de nous montrer chrétiens. Oui, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes des chrétiens et nous devons vivre en chrétiens. Et aussi à être courageux contre les ennemis du bon Dieu. Voilà, si vous voyez des gens qui sont ennemis du bon Dieu, vous leur dites de ne pas offenser le bon Dieu comme ça. Et demandons à la Sainte Vierge. Saint Léon aimait beaucoup la Sainte Vierge, il la priait beaucoup. Il a obtenu de nombreuses grâces aussi par la Sainte Vierge. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous accorde aussi à nous les grâces qu'elle a accordées à ce pape Saint Léon. Grâce de courage, grâce de fermeté et d'aimer le catéchisme. Aimer beaucoup la Sainte Écriture. Aimer le catéchisme, c'est les lettres du bon Dieu. C'est la doctrine que le bon Dieu nous a enseignée, nous a révélée, qui nous enseigne par son Église. Aimons cela et ainsi nous serons agréables au bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la fête d'un saint, d'un nom qui vous sera un peu curieux. C'est la fête de Saint Josaphat Koncevitch. ce pain de chez nous. Oui, c'est un saint de Pologne. Alors là-bas, ils ont des noms très particuliers que nous n'avons pas l'habitude. Eh bien, ce saint Josaphat a réalisé ce que l'Évangile nous a dit aujourd'hui, ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre l'Évangile, j'espère que vous avez écouté, que vous avez retenu quelque chose. Je ne vais pas vous poser la question pour savoir qu'est-ce qu'il a été dit dans l'Évangile, mais il a été parlé du bon pasteur. Eh bien, saint Josaphat a été un bon pasteur. Il est né en 1580, ça fait déjà bien longtemps, et il est né dans une église qui était une église schismatique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un nom bien compliqué. Schismatique, ça veut dire qui est séparé. Voilà. C'est comme qui est déchiré, qui est coupé de l'église catholique. C'était des catholiques qui, à un moment donné, ont dit « Maintenant, nous ne sommes plus d'accord avec le pape. » Nous ne sommes plus d'accord avec l'église de Rome et nous allons faire notre église à nous. Voilà. Alors, c'était l'église orientale de Ruthen. C'est une église particulière de la région, de Pologne et des environs. Alors, il est né dans cette église, il a été baptisé dans ce rite de l'église de Ruthen. Alors, ils ont beaucoup de croyances comme nous, ils croient à beaucoup de choses, ils aiment la Sainte Vierge, les saints, ils ont beaucoup, beaucoup comme nous, mais il y a quelques vérités qu'ils ne sont pas d'accord, avec lesquelles ils ne sont pas d'accord avec nous. Alors pour cela, ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Entre autres, comme vérité qu'ils n'acceptaient pas, c'est que le pape ait une juridiction sur toute la terre. Vous voyez ? Il reconnaissait que le pape était l'évêque de Rome, mais ce n'est pas parce qu'il était l'évêque de Rome qu'il avait une juridiction partout. Voilà. Alors il faisait erreur. Voyez. Et puis d'autres questions de théologie dont il n'était pas d'accord. Alors il est né dans cette église. Et puis, à l'âge de 15 ans, lorsqu'il avait 15 ans, en 1595, cette église s'est réuni de nouveau avec l'Église catholique de Rome. Ils ont renoncé à leurs erreurs et ils ont dit non. Nous acceptons maintenant tout ce que l'Église catholique affirme. Voilà. Et ils se sont réunis de nouveau à l'Église. Ils sont de nouveau rentrés dans le bercail. Hein? Le bercail, vous savez que c'est l'endroit où se réunissent toutes les brebis. Dans l'Évangile, vous avez aussi ce passage où il est dit à la fin, il y a d'autres brebis que je veux aller rechercher et les faire venir dans mon bercail. Voilà, et bien c'est ça. Saint Josaphat, lorsqu'il était petit, aimait beaucoup apprendre. Il apprenait les langues de la région, il y avait différentes langues. Il aimait beaucoup la peinture. À son époque, on aimait beaucoup les images de la Sainte Vierge, les icônes. Vous avez entendu parler des icônes. Hein, c'est une manière particulière de peindre qui était dans leur région, en Russie, par là-bas. Et il aimait beaucoup cela. Et alors, il s'était mis à peindre. Il avait appris à peindre et il faisait cela avec beaucoup de goût, beaucoup de joie. Mais ce qu'il aimait surtout, eh bien, c'était ce qui regardait Dieu. Dieu l'intéressait beaucoup, les saints, la Sainte Vierge, tout cela. Il aimait particulièrement étudier le catéchisme. Voilà. Il avait compris que le catéchisme, c'est la science de Dieu, qui est la science la plus belle de toutes les sciences. Il n'y a aucune science qui soit la plus belle que le catéchisme. La science de Dieu, connaître Dieu et ses mystères, découvrir Dieu, et aimer Dieu. Le catéchisme, si vous l'apprenez bien, eh bien, va vous aider à aimer le bon Dieu comme il voudrait que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme. Et par cela, vous vous sanctifierez. Il avait compris cela, Saint Josaphat, c'est pourquoi il aimait cela. Et puis plus tard, ses parents l'ont mis chez un marchand, un riche marchand, pour travailler chez lui. Et ce marchand n'avait pas d'enfant. Et il avait remarqué que Josaphat avait beaucoup de qualités,
Bien sûr, comme il était très religieux, il priait beaucoup, il aimait le bon Dieu, il était devenu vertueux. Alors ce négociant, ce marchand, avait remarqué cela, et il voulait adopter Josaphat comme son fils, et lui donner tous ses biens, toutes ses richesses, tout son commerce, toutes ses affaires. Mais Josaphat, lui, il se dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai toutes ces richesses, puis d'un côté, Jésus nous dit, voilà, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors il se dit, bien, si j'accepte ça, je risque de manquer le ciel. Alors non, moi je préfère le bon Dieu. Et il a tout abandonné et il est rentré dans un monastère qui à ce moment-là n'allait pas très bien. Il avait souffert de ce schisme qui avait desséché les âmes, desséché la foi. Les gens avaient abandonné, n'avaient plus les grâces suffisantes pour pouvoir vivre vraiment vertueusement. Alors, il est entré dans ce couvent et tout le monde a admiré ses vertus, ses qualités, si bien qu'ils ont été édifiés. Voyez comme quoi le bon exemple. Le bon exemple fait du bien autour de nous. Eh bien, en voyant ces vertus, ces qualités de Saint Josaphat, les autres ont dit, bien moi aussi, je veux devenir vertueux comme lui. Je veux aimer le bon Dieu, je veux être charitable, je ne veux pas bousculer les autres, avoir de la délicatesse pour les autres, voilà, penser aux autres, faire plaisir aux autres. Voilà ce que je veux faire, comme Saint Josaphat montrait. C'était un modèle de vertu. Eh bien, voyez, quelqu'un qui pratique la vertu, fait du bien autour de lui. Le bon Dieu fait du bien autour de celui qui l'aime. Et puis, bien sûr, ses supérieurs ont vu toutes les qualités. Et aussi, il y avait encore d'autres qui étaient restés dans le schisme et qui s'étaient aperçus. Alors, ils se sont dit, eh bien, on va aller vers lui. On va essayer de le gagner à nous. Comme ça, il viendra dans notre église et puis il fera fleurir notre église. Alors, ils sont allés le trouver. Puis ils lui ont parlé dans ce sens-là. Alors il leur a dit, non, il n'y a rien à faire. Hein. Là, vous êtes dans l'erreur. Et si vous êtes dans l'erreur, vous êtes éloigné de Dieu. Il faut que vous veniez avec l'Église catholique, parce que c'est ça la vraie Église. Il n'y a qu'une seule Église, celle que Dieu a fondée. Mais vous n'acceptez pas toutes les vérités. L'Église catholique a reçu la promesse du Saint-Esprit. Donc vous ne devez pas vous séparer. Vous devez rester unis à l'Église. Vous ne devez pas adhérer à l'erreur. Alors, ils étaient partis furieux. Alors, ils se sont dit, ben, on va essayer de faire autrement, puisqu'il ne veut pas accepter de venir. On lui a promis des richesses, il n'a rien voulu en savoir. On va essayer de l'obliger. Alors, ils ont essayé de lui faire des misères, de crier, de le critiquer auprès des autres, de faire des calomnies, mais ça n'a pas marché. Et puis, les autres, ceux qui étaient l'archevêque, qui l'avait remarqué aussi, eh bien, l'a nommé évêque, et plus tard il devint archevêque. Alors il avait de grandes responsabilités, et partout où il allait, eh bien, il faisait aimer le bon Dieu. Il les encourageait surtout à rester bien fidèles à l'Église catholique. Il a eu beaucoup à lutter pour cela, pour tirer les âmes de l'erreur dans laquelle ils se trouvaient. Mais bien sûr, il s'était fait des ennemis. Les autres voyaient que beaucoup, beaucoup le suivaient et l'écoutaient, se convertissaient et devenaient catholiques. Alors ils étaient devenus jaloux, encore une fois. La jalousie. Vous voyez, la jalousie, c'est quelque chose de terrible. Ah, ça, il faut que vous ayez pas dans votre cœur. C'est la pire des choses, la jalousie. Vous voyez. Eh bien, encore, là, ils étaient devenus jaloux. Et leur jalousie les a amenés à le tuer. Vous voyez, encore une fois, la jalousie, c'est quelque chose de terrible. Si on ne lutte pas contre la jalousie, ça nous amène au crime. Alors un jour qu'il y a eu un synode, Saint Josaphat était allé avec tous les autres, réunis pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'apostolat, pour gagner toutes ces âmes, pour amener toutes ces brebis égarées au vrai bercail. Et puis, les ennemis, ceux qui ne voulaient pas devenir des catholiques, ils s'étaient dit cette fois-ci, il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer. Alors ils sont allés au palais épiscopal et ils ont commencé à tout casser, à frapper les serviteurs qui étaient là. Et quand Saint-Josaphat a vu cela, il est sorti de son bureau, il est descendu, il a dit « Mais pourquoi maltraitez-vous mes serviteurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'ont rien fait de mal. Si c'est à moi que vous en voulez, laissez-les tranquilles. » Alors quand ils ont entendu, ils l'ont vu, ils étaient tous surpris. Puis au bout d'un moment, deux d'entre eux sont sortis du rang et ils sont allés le frapper. Et il lui a donné un coup de hallebarde et lui a fendu le crâne. Voilà. Eh bien, Saint Josaphat a réalisé ce programme que Jésus a enseigné dans l'évangile d'aujourd'hui. Le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Pour la vérité, il a donné sa vie. Il n'a pas dit, bien tant pis, j'accepte. Non. Il est resté fidèle et on l'a tué pour cela. Saint Josaphat. Eh bien, aujourd'hui, il nous faut prier Saint Josaphat qu'il nous fasse aussi aimer le bon Dieu comme lui, il l'a aimé. Qu'il nous fasse rester fidèles à la vérité catholique. Hein? Aujourd'hui, vous pourriez dire, mais nous aussi, nous sommes schismatiques, puisque le pape nous a condamnés et nous a dit que vous êtes des schismatiques. Mais ce n'est pas du tout la même chose, vous comprenez? Saint Josaphat a dû lutter pour la vérité. Hein? À ce moment-là, le pape et les évêques à Rome, on était dans la vérité, on prêchait la vérité, et les autres prêchaient l'erreur. Tandis qu'aujourd'hui, c'est juste le contraire. À Rome, on prêche l'erreur. Voyez, et c'est parce qu'on prêche l'erreur et que Monseigneur Lefebvre a voulu rester dans la vérité qu'on l'a déclaré schismatique. C'est-à-dire qu'on lui a dit, eh bien, vous n'êtes plus de la même église que nous. Eh bien, c'est très bien. C'est très très bien, parce qu'ils ne sont plus de l'église catholique, ils ont seulement gardé le titre, église catholique, mais ils ne sont plus de l'église catholique, puisqu'ils ont accepté les erreurs. Ils sont devenus des schismatiques, vous voyez? Voilà, il faut que vous compreniez cela. Eh bien, il faut demander aujourd'hui à Saint Josaphat la grâce de rester fidèle. Fidèle à notre Seigneur, même si un jour on nous dira, tu renonces à ta foi, sinon on te persécute. Eh bien, il faudra dire, comme les saints ont fait, je reste fidèle à Jésus-Christ. Tant pis si on me tue, je reste fidèle à Jésus-Christ. Voilà. Alors demandons cette grâce à Saint Josaphat et à la Sainte Vierge, hein, la reine des martyrs. Saint Josaphat a beaucoup aimé la Sainte Vierge. Eh bien, demandons aussi à Notre-Dame de nous encourager, de nous soutenir comme elle a soutenu Saint Josaphat jusqu'à la fin, afin que nous soyons fidèles à Jésus et qu'ainsi nous puissions aller le trouver dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.